Chapitre 20. 2 novembre 2010.
Soutkovski était arrivé à Valence aux environs de 1h du matin. Il s'était arrêté dans une station essence au niveau de Mâcon pour retirer 700 euros avec la carte bancaire de Mathilde, dont il possédait le code. Il lui fallait du cash pour ne pas être suivi à la trace. Et il avait respecté le plafond hebdomadaire autorisé pour que l'automate n'avale pas la carte. Il redemanderait le même montant dès le lundi suivant. Puis il la détruirait. Il utilisait celle de Socha pour percevoir sa pension d'ancien combattant chaque mois. Paranoïaque comme il l'était, il lui paraissait inconcevable de s'en servir autrement que pour retirer la pension dans sa quasi-totalité. Il laissait 100 euros sur le compte courant de Socha pour le prélèvement mensuel des factures d'électricité. C'était tout. Le reste était dans ses poches. Pas âme qui vive chez Mathilde. Personne n'avait donc signalé sa disparition. Il n'avait pas fermé les volets pour ne pas attirer l'attention du voisinage. Avait laissé une veilleuse allumée et garé sa Twingo à l'endroit habituel. Il était revenu pour vider son meublé. Victor Socha allait de nouveau déménager. Soutkovski n'avait pas grand-chose à récupérer, à part des vêtements, des chaussures, une boîte à outils, des haltères et quelques papiers administratifs. Il avait jeté tous ses journaux. En à peine une heure, il avait rassemblé le peu qu'il possédait dans son garage et passé son deux pièces à l'eau de Javel, du sol au plafond. On aurait dit un appartement témoin au salon de l'habitat. Il avait marché jusqu'au parking de la gare, en avait fait le tour pour observer les véhicules. Les nouveaux modèles étaient plus compliqués à forcer et à démarrer. Saleté de progrès. Il avait repéré une Honda dont la porte arrière droite n'était pas verrouillée. Un modèle de 1993. En forçant le Neyman et en connectant entre eux les fils du démarreur, ce serait un jeu d'enfant. Il faut dire qu'il avait piqué tellement de voitures depuis qu'il était môme, avant de les abandonner, comme il avait abandonné Marie Roman dans un bordel près de Strasbourg. Il aurait mieux fait de la tuer. En plus, c'était à cause d'elle qu'il avait fait de la prison et perdu la trace de Blanche. Il était retourné chez lui, au volant de la Honda, pour remplir le coffre, et l'avait caché dans son garage. Il fallait qu'il parte avant le lever du jour. Il devait être 5h du matin quand il s'était faufilé chez Mathilde pour effacer l'historique de son ordinateur. Toutes ses recherches effectuées sur Blanche et Marie Roman. Personne ne devait pouvoir remonter jusqu'à lui, disparu des écrans radars depuis l'affaire de Marseille. Personne n'avait fait le rapprochement entre lui et Victor Socha. Mais à peine assis devant l'ordinateur, il n'avait pu s'empêcher d'entrer Agnès Duguin. Elle était apparue, tout sourire, de l'âge de 20 ans à aujourd'hui. Dans la rue, sur des plateaux de cinéma, dirigeant des acteurs dont il n'avait jamais entendu parler, sur des tapis rouges, dans de longues robes noires, et toujours accompagnée par le même homme. C'était bien elle. Et de nouveau, cette étrange chaleur, ce curieux bien-être qu'il ressentait quand il posait le regard sur elle. Soutkovski n'avait aucune culture. Il ne connaissait que Paris Turf, le bricolage, les exercices d'assouplissement, les petits trafics en tout genre, la prison. L'informatique ne lui avait servi qu'à rechercher, enquêter, jamais à apprendre. Mais il avait éprouvé une certaine fierté à l'idée qu'elle faisait des films. Cela signifiait qu'elle avait le goût du spectacle. Faire du cinéma ou être dresseur revenait à séduire un public. Elle avec une caméra, lui avec un fouet et la privation de nourriture. En affamant les animaux, on en faisait ce qu'on voulait. Il devait dompter ce à quoi il se confrontait, utiliser des projecteurs pour faire danser la lumière. Comme lui, elle appartenait au monde du spectacle. Il avait retenu son année de naissance, 1972, et qu'elle était la fille du pianiste Jean Septembre et de la violoniste Anna Ruben. Qu'elle était scénariste et réalisatrice et avait gagné des prix partout dans le monde pendant près de 15 ans. qu'elle avait une fille, prénommée Anna, née à Paris en 1995. Qu'elle avait été mariée à Pierre Duguin et était divorcée depuis 2008. Qu'elle vivait à Paris. Qu'elle n'avait pas tourné de film depuis 2006. À partir de cette année-là, plus rien n'était indiqué. Comme si elle était morte. Il avait retenu le nom de ses films, mais n'en avait vu aucun. Puis il s'était retrouvé sur un lien où on apercevait son ex-mari dans les bras d'une certaine Audrey Tudor. Il s'en moquait. Seule Agnès l'intéressait. Il avait cliqué sur une vidéo pour entendre le son de sa voix. Celle tournée pendant le Festival de Cannes en 1995, où elle présentait La Fenêtre. Elle était enceinte et filmée en gros plan. Elle était maquillée, portait un haut rouge décolleté arrondi et avait le teint hâlé. Elle était jolie et plus jeune que lorsqu'il l'avait aperçue sortir du PMU. Soutkovski n'avait pas écouté un seul mot de l'interview. Les yeux rivés sur ses lèvres, son sourire, son nez, son regard, la manière dont elle levait les yeux lorsqu'elle réfléchissait, le timbre de sa voix quand elle répondait, ses mains sans vernis ni bijoux. Totalement subjugué par cette femme. Un fantôme revenu le hanter. Il fallait partir. Il était presque 6h30. En hâte, il avait effacé ses traces sur l'ordinateur et il était ressorti de la maison de Mathilde sans se retourner. Il avait balancé le double des clés au fond d'un conteneur rempli d'ordures. Puis, il avait connecté les fils du démarreur de la Honda et roulé en direction de Lyon. Là, il avait trouvé un petit hôtel à côté du parking des Célestins. Il n'y resterait que quelques nuits pour réfléchir. Et surtout comprendre. Agnès était née en 1972. Blanche et lui vivaient alors ensemble à Lyon, de cela il était sûr. Il avait vendu le cirque en 1970. L'ornière de sa vie se situait là, en 1970. Divisant sa sinistre existence en deux, avant et après. Depuis sa chambre d'hôtel, il avait appelé le numéro de fixe où Agnès vivait à Gueugnon. Ça avait sonné dans le vide. Puis elle avait fini par répondre. Il avait aussitôt raccroché et rappelé, sans dire un mot, simplement pour entendre sa voix.
« Marie ?» C'est vous ?
Marie. Marie, Marie. Marie, 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 Marie. Elle avait dit Marie. Agnès était en lien avec Marie Roman. Quelque chose s'éclairait. Il ne savait pas encore quoi, mais quand elle avait prononcé son prénom, il avait compris qu'il tenait le câble relié au détonateur de la dynamite. Il avait chuchoté « oui » dans un souffle.
C'est Héloïse qui vous a donné ce numéro ?
Il avait raccroché. Qui était Héloïse ? Et il l'avait rappelée. Elle avait à nouveau décroché. Il avait respiré fort, dans l'appareil, pour qu'elle continue à parler, qu'elle pense que quelqu'un tentait de lui dire quelque chose. Et ça avait marché.
Allô ? Marie ? Pardon, Amélie ? C'est vous ?
Il avait appelé trois fois de suite, mais Agnès n'avait plus rien dit. Il avait posé son portable précautionneusement sur le lit, comme s'il contenait toujours les mots d'Agnès, à côté de la boîte de photos. Ne restait plus qu'à constituer le puzzle. Marie, Amélie... Elle avait changé d'identité, l'avocat l'avait prévenu. Elle devait donc se faire appeler Amélie. Premier point. Dommage qu'il n'ait pas obtenu son nom d'emprunt. Deuxième point, il y avait une Héloïse dans l'histoire. Ça devait être la personne qui s'occupait d'elle. Il avait cloué Marie sur une chaise roulante. Elle était forcément dans une institution. De cela, il était sûr depuis des années. Quand il l'avait battue à mort, elle vivait à Annecy. Elle n'avait pas dû aller bien loin. Cette souillon n'était jamais partie bien loin de toute sa vie. Il lui avait fait cracher l'information avant de frapper. Sallanches. et sa garce de sœur vivaient à Flumet. Il fallait remettre la main sur la liste des établissements de Savoie et Haute-Savoie pour trouver une Héloïse parmi le personnel soignant. Héloïse n'était pas un prénom courant, et les appeler à nouveau les uns après les autres. Préparer la phrase parfaite pour ne pas éveiller les soupçons. « Bonjour, police nationale de la ville d'Annecy, je vous appelle de la part d'Agnès Duguin. Je voudrais parler à Héloïse, s'il vous plaît. » Si on répondait qui, raccrochez. Si on répondait de la part de qui, trouvez le nom d'un flic encore en activité. Si on répondait c'est à quel sujet, répondre de l'individu qui a fait de la prison pour violence aggravée sur une de vos résidentes, Marie Roman. Elle se fait appeler Amélie. Madame Duguin nous a informé que c'est Héloïse qui s'occupe d'elle dans votre établissement. Elle a oublié son nom. Ne rien ajouter de plus. Agnès était une femme connue. Si on la voyait rendre visite à une patiente, on saurait de qui il s'agissait. Dans le coffre de la Honda, il possédait la liste des maisons de retraite avec les numéros de téléphone. Toutes celles qu'il avait déjà contactées en vain. Il allait recommencer. Les appeler les unes après les autres. Et il finirait par trouver. Il le savait. Il savait qu'en allant à Guignon, après avoir lu l'article de cette Nathalie Grandjean, il dénicherait un indice. Le début de quelque chose qui allait sans doute l'emmener très loin. Son fichu instinct était imparable.